Géopolitique.
Chantal Loureau.
Bonjour, bienvenue dans Géopolitique. En janvier dernier, et au mépris du droit international, il a envahi le nord de la Syrie pour en déloger et éliminer des Kurdes qu'il considère comme des terroristes. Depuis le coup d'état manqué de juillet 2016 dans son propre pays, il a procédé à des purges massives, plus de 50 000 personnes arrêtées, 150 000 fonctionnaires limogés. Ses relations sont houleuses avec les États-Unis, fluctuantes avec la Russie, exécrables avec l'OTAN et plus que fraîches avec l'Union européenne, dont il joue les gardes-frontières moyennant finances. Alors qui pour contrer Recep Tayyip Erdogan? Sa dérive autoritaire est-elle irréversible? En première ligne dans la bataille contre Daesh, pourquoi les Kurdes sont, semble-t-il, les grands perdants du conflit syrien? Les frappes américaines, françaises et anglaises la semaine dernière en Syrie peuvent-elles avoir un impact sur l'après-guerre qui se dessine dans le pays? Pourquoi l'homme fort d'Ankara annonce-t-il des élections présidentielles et législatives anticipées pour le 24 juin, alors qu'elles étaient prévues en novembre 2019. On en débat avec trois invités. En duplex de Grenoble, Jean-Marc Coux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur des relations internationales et de la chaire Méditerranée-Moyen-Orient à Sciences Po Grenoble. En duplex de Strasbourg, Samim Aghenul, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au CNRS et vous enseignez à l'Université de Strasbourg. Et à mes côtés en studio, Didier Billon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Ma première question, à l'instar d'un Poutine nostalgique de la grande URSS, est-ce que Recep Tayyip Erdogan est nostalgique de l'Empire ottoman? Didier Billon.
Oui, je crois qu'il faut faire attention parce qu'il y a effectivement dans les codes de fonctionnement de l'AKP, le Parti de la Justice et du Développement dirigé par M. Erdogan, des références constantes à cette période de l'Empire ottoman. Et il y a même dans la vie quotidienne toute une série de clins d'œil à la période ottomane et c'est ce qu'on appelle l'ottomania. En réalité, du point de vue de la politique extérieure, je n'ai jamais été convaincu pour ma part qu'il y avait une volonté de reconstitution de l'Empire ottoman. Nous sommes dans une période historique bien évidemment totalement différente. La Turquie républicaine, même dirigée par Erdogan, n'a pas de volonté impérialiste dans la région de mon point de vue. Toutefois, il est évident que la Turquie a désormais pris conscience de son potentiel, de sa puissance, et qu'elle veut apparaître comme un leader de la région. En tout cas, ça c'était le projet de M. Erdogan, notamment à l'époque où son ministre des Affaires étrangères, M. Davutoğlu, avait fait un certain nombre de théorisations sur ce sujet. Force est d'admettre que ce projet a quelques plombs dans l'aile, puisque, notamment depuis les révoltes arabes, M. Erdogan, qui voulait apparaître comme le responsable principal, le pays principal, le leader régional, eh bien, n'a pas réussi ce projet, incontestablement. La raison principale, c'est probablement ses erreurs à répétition sur la gestion du dossier syrien. Et comment voulez-vous qu'un pays qui a comme voisin la Syrie, 920 km de frontière, et qui a multiplié les erreurs d'analyse et donc de décision à l'égard de ce pays, puisse apparaître comme crédible aux yeux des autres États de la région. Donc, pour autant, la Turquie, évidemment, est un pays incontournable, de par son histoire, de par sa démographie, de par sa situation géographique et géopolitique. Donc, on continuera à parler de la Turquie. La Turquie restera un pays important dans la région. Pour autant, ce projet de domination régionale est un leurre et nous en voyons les effets aujourd'hui.
Jean-Marc Coux, est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de Didier Billon?
Je nuancerai un petit peu son analyse parce que je pense effectivement, comme lui, que le projet stricto sensu de rétablissement de l'Empire ottoman ou d'une influence comparable est effectivement un peu un effet d'optique et un effet de style. Ce qui se manifeste surtout en Turquie, c'est un très fort nationalisme qui d'ailleurs fait appel un petit peu à toutes les périodes de l'histoire turque, puisque Recep Tayyip Erdogan évoque aussi la bataille de Manzikert, des Turcs Seljouks qui sont arrivés en Anatolie. Il évoque même les grands moments de l'histoire républicaine par moment. Donc, si vous voulez, au-delà de ça, il y a effectivement une entreprise indiscutable pour devenir une puissance régionale incontournable. C'est vrai que cette entreprise, comme le disait Didier Billon, a été quelque peu entamée par la suite des printemps arabes. Si vous vous rappelez, au moment mouvement des printemps arabes, la Turquie avait été décrite comme le modèle turc. Et puis effectivement, ce modèle turc s'est un petit peu effondré au fur et à mesure que finalement les séquelles post-printemps arabes montraient l'ampleur de leur complexité. Mais on observe quand même depuis un certain nombre de mois que la Turquie a rétabli, a reconstitué une politique qui est une politique très, si j'ose dire, très réaliste, qui consiste finalement à tenir un jeu avec des grandes puissances, à la fois à conserver ses vieilles alliances tout en passant des alliances de circonstances justement pour affronter des conflits comme le conflit syrien. Et de ce point de vue-là, la Turquie finalement a surpris, elle ne s'en sort pas si mal. Elle s'est même positionnée après les frappes occidentales contre le régime syrien en position d'arbitre un petit peu entre la Russie et les États-Unis. Donc finalement, il y a dans cette politique des résultats qui sont assez redoutables, je trouve.
Samim Akgönül, le pouvoir turc, effectivement, avait qualifié l'intervention occidentale de parfaitement appropriée. L'intervention occidentale, c'est-à-dire les frappes de la semaine dernière sur Homs et sur la banlieue de Damas, en représailles à l'attaque chimique du 7 avril à Douma par le régime de Bachar el-Assad. Est-ce que cette réaction était habile, selon vous ?
Ben, habile et pragmatique, surtout d'après tout ce qu'on vient d'entendre de Didier Billon et de Jean Marcoux. On voit très bien qu'il n'y a pas une idéologie cohérente dans la politique à la fois interne et externe de la Turquie, et il s'agit d'une approche très pragmatique. En Syrie actuellement, parmi les acteurs qui sont des ennemis de la Turquie, alors il faut quand même dire que à cause des erreurs de calcul et à cause de ce pragmatisme à outrance justement, l'ensemble des acteurs internes de la Syrie sont devenus des ennemis de la Turquie, et bien donc un de ses ennemis, c'est le régime de Bachar el-Assad. Donc toutes les entreprises contre le régime de Bachar el-Assad sont considérées comme favorables, comme positives par le régime turc. Mais en même temps, ce pragmatisme quand même enferme la Turquie dans une espèce de piège, dans la mesure où la Turquie, Ankara, dans ce pragmatisme justement, est entrée en alliance avec une Russie qui, elle, aimerait protéger et garder le régime de Bachar el-Assad en Syrie. On voyait que ce jeu d'équilibre n'est pas si facile. Il faut quand même dire que dans l'histoire de la diplomatie turque, ce pragmatisme et ce jeu d'équilibre de donner des roses à toutes les parties, ça a déjà eu lieu. Tout au long de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, le régime de İsmet İnönü a fait exactement la même chose, en promettant une chose à un camp et une deuxième chose, le contraire, à un autre camp. Alors est-ce qu'aujourd'hui la diplomatie turque essaye de renouveler cette expérience, d'ailleurs qui a été renouvelée après les années 1990 aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, ces changements d'alliance, ces changements de côté fait qu'il y a un manque de confiance et de cohérence dans la politique étrangère turque.
Didier Billon, vous vouliez intervenir.
Oui, je suis d'accord avec là aussi une petite nuance. Il ne faut pas confondre en politique internationale ce qu'on appelle les alliances et ce qu'on appelle les partenariats. Or, j'entends bien depuis fort longtemps que certains considèrent, et c'est un véritable sujet de débat, que les alliances traditionnelles de la Turquie seraient remises en cause par Ankara. Je ne le pense pas. En réalité, Ankara ne veut pas sortir de l'OTAN, par exemple, dont elle fait partie depuis 1952. Ceci étant, cela ne signifie pas que la Turquie ait le petit doigt sur la couture du pantalon devant l'OTAN ou devant Washington, voire devant Bruxelles. Mais pour autant, le système d'alliances traditionnelles de la Turquie est conservé. C'est la grande différence avec ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'à l'époque, Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la Turquie républicaine, avait mis en œuvre une politique de neutralité. La Turquie, à l'époque, évidemment, par définition, ne faisait partie d'aucun bloc. Et donc, c'est là la grande différence. Mais cela n'est pas exclusif d'un partenariat réel et d'une bonne entente avec Moscou aujourd'hui. Mais chacun sur son précaré, si je puis dire. Et le coup de force de Erdogan, il faut au moins lui reconnaître cela. C'est au cours de l'été 2016, ce revirement à l'égard de la Syrie, c'est-à-dire qu'il a réussi, en faisant allégeance à la Russie, à se remettre dans le jeu, à participer aux négociations, si on les appelle encore comme telles, d'Astana. Donc la Turquie, cela ne signifie pas qu'elle est sur la même ligne que les Iraniens ou que les Russes, bien évidemment. notamment à l'égard du régime de Bachar el-Assad. Pour autant, elle s'est remise dans le jeu. Mais ce partenariat avec Moscou n'est pas exclusif du maintien d'une alliance fondamentale avec les États-Unis, en dépit des turbulences qui marquent la relation aux États-Unis.
Mais vous disiez, Didier Billon, tout à l'heure, que la Turquie rêvait, après les printemps arabes, de s'imposer comme leader régional. Est-ce qu'aujourd'hui, et ça je vais poser la question à Jean Marcoux, est-ce qu'elle ne s'est pas fait damner le pion par la Russie, justement, au Proche-Orient ?
Ben effectivement, c'est un jeu quand même assez dangereux pour la Turquie, puisque, comme le disait Didier Billon, effectivement, elle maintient ses vieilles alliances qui sont avec l'Occident, qui sont aussi cette candidature sans fin à l'Union européenne. Mais en même temps, elle passe des partenariats de circonstances, des partenariats conjoncturels pour régler des crises ou peser sur des crises avec un partenaire comme la Russie. Je dirais que c'est un jeu, si vous voulez, d'équilibrisme complexe, que d'ailleurs on observe toutes les puissances à l'heure actuelle au Moyen-Orient conduisent. Ce jeu peut rapporter un certain nombre d'atouts, peut placer le pays qui le joue dans des positions effectivement intéressantes, mais en même temps, le risque, celui qui perd en quelque sorte, c'est celui qui se retrouve dans une contradiction. Les États-Unis, d'une certaine manière, se sont retrouvés au moment de l'intervention à Afrin dans une contradiction, avec finalement leur allié turc qui a affronter les Kurdes, qui étaient le bras armé qui s'était choisi en Syrie. Donc, d'une certaine manière, il y a ce risque de se retrouver dans une impasse. Comme je le disais tout à l'heure, lors des frappes, il y avait ce risque pour la Turquie. D'ailleurs, le président Macron l'a dit lors de son interview, il a dit « Par les frappes, nous avons aussi séparé la Turquie de la Russie ». Donc, on voit bien le jeu que les différentes puissances jouent. Chacun a des alliances, mais en même temps, chacun essaye finalement de passer des partenariats de circonstances qui lui permettent de se replacer en position favorable sur le terrain. Donc effectivement, le jeu que joue la Turquie avec la Russie est un jeu difficile parce que effectivement la Russie a non pas apporté un appui officiel à l'intervention à Afrin, mais a consenti finalement à l'intervention à Afrin qui effectivement n'aurait pas pu se faire sans l'aval de la Russie, mais en même temps on a bien vu la contradiction poindre au lendemain de l'opération d'Afrin lorsque les Russes ont demandé aux Turcs de rendre l'enclave d'Afrin au régime de Damas. Et bien évidemment, là, la Turquie a été obligée de présenter une fin de non-recevoir.
Samim Akgönül, l'opération de l'armée turque à Afrin, justement, visait les unités de défense du peuple, les YPG, le bras armé du parti kurde syrien PYD, le parti de l'Union démocratique. Le PYD est considéré par Ankara comme la franchise syrienne de sa bête noire, le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, à juste titre selon vous ou pas? Est-ce que les deux parties sont liées?
D'abord, juste un petit mot à propos des alliances et des partenariats. Moi, je ne crois pas que les structures d'alliance nouées par la Turquie avec l'Occident soient si solides. Je pense que le régime actuel, après les élections du 24 juin, par exemple, quand il aura les pleins pouvoirs présidentiels, peut très bien renverser, mais sans sortir pour autant, mais pour mieux dominer. C'est pour ça que la Turquie est toujours membre du Conseil de l'Europe. C'est pour ça que toujours candidat, bien que désespéré, de l'Union européenne. Et c'est pour ça qu'évidemment, un acteur important de l'OTAN. Quant au PYD, PYT et le PKK, là, il y a une vérité, bien entendu. C'est-à-dire que le PKK est à la fois une organisation qui est, alors c'est assez complexe, qui est basée sur le nord de l'Irak, mais rivale du régime du nord d'Irak, autrement dit de la région autonome du Kurdistan, dominée par le clan Barzani, donc proche des Kurdes de Turquie, est assez proche identitairement et politiquement du nord de la Syrie. La question d'Afrin était assez importante dans la mesure où il y avait déjà eu cette résistance et cette bataille de Kobané au nord-est de la Syrie avec un succès. Maintenant que la même chose peut se produire à Afrin, Ankara a eu peur qu'il y ait une ligne qui lierait Afrin à Kobané, dans le nord de la Syrie, avec une bande dominée par les Kurdes. Donc c'est pour ça qu'elle est intervenue à Afrin d'une manière illégale également, mais également bien sûr des frappes américaines, britanniques et françaises non plus ne sont pas tout à fait dans la légalité. Il faut quand même le souligner. L'idée était de couper cette ligne-là. Mais au milieu de cette ligne, et c'est ça qui est très intéressant, il y a Manbij qui est juste au milieu où physiquement l'armée américaine est présente. Alors, si l'armée turque essaye d'avancer d'Afrin vers Kobané, il peut y avoir, le risque est énorme, c'est pour ça que dans la déclaration turque, il faut chercher cet apaisement également, le risque est énorme d'une confrontation, d'un accident entre les soldats turcs et les soldats américains, ce qui aura bien sûr des conséquences assez graves.
Didier Billon, comment vous expliquez que le vent est tourné aussi vite à propos des Kurdes? Fin décembre, ils avaient plutôt le vent en poupe, ils contrôlaient près d'un tiers du territoire syrien, ils espéraient obtenir leur autonomie dans la future Syrie, ils comptaient sur Vladimir Poutine pour appuyer leur rêve, et en quelques semaines, tout s'est effondré. Pourquoi?
Non, je ne pense pas que tout se soit effondré, il faut savoir mesure garder. Il y a une défaite militaire à Afrin, c'est absolument incontestable. Mais, comme le vient de le rappeler Samin Akgönül, les Kurdes organisés par le PYD et les unités de protection populaire n'ont pas subi de défaite militaire plus à l'est du nord de la Syrie. Donc, selon les endroits et considérant le chaos syrien qui prévaut sur la totalité du pays, les choses sont un petit peu plus compliquées. Ceci étant posé, évidemment, la voie est étroite pour les Kurdes du PYD. C'est qu'il y a eu peut-être quelques illusions, notamment en ce qui concernait le soutien qui a été effectif et important par les États-Unis principalement, puisque à l'époque, seuls ces combattants étaient à même de combattre au sol Daesh. Malheureusement, une fois de plus, et c'est un aspect récurrent de l'histoire des Kurdes et des organisations nationalistes kurdes, eh bien, on les utilise, ils sont instrumentalisés, et puis les intérêts des puissances internationales, comme les États-Unis ou les intérêts des puissances régionales, est plus fort que le soutien qu'il aurait apporté. Mais ne sous-estimons pas la dynamique qui a été induite autour des cadres des dirigeants du Parti de l'Union démocratique. Ils n'ont pas dit leur dernier mot, et évidemment, leur sort au final dépendra totalement des modalités de sortie de crise et du produit des négociations politiques sur l'avenir de la Syrie, car négociations politiques, il y a besoin. On comprend bien que militairement, désormais, Bachar el-Assad, pour le meilleur et probablement le pire, a remporté une victoire. Mais la véritable question, c'est pas de gagner la guerre, c'est de gagner la paix. Et donc là, il faudra passer par la négociation politique. Et là, tout le jeu va être compliqué entre la Turquie, qui a un rôle incontestable, comme nous l'avons évoqué précédemment, sur l'issue de la crise syrienne, et qui s'oppose radicalement au fait que le PYD, le Parti Union démocratique, participe à ces négociations. Mais pour autant, le Parti Union démocratique est un acteur important de la totalité du conflit syrien. Et donc, il faudra bien qu'il s'assoie à la même table que les Turcs, ce qui est évidemment plus facile à dire qu'à réaliser.
Jean-Marco, vous êtes d'accord? Il est trop tôt pour dire que les Kurdes sont les grands perdants, comme on l'a dit pourtant dans la presse, de ce conflit?
Oui, absolument, parce que bien qu'il y ait eu des affrontements meurtriers, malgré tout, on a l'impression que, je dirais, les moyens du PYD et de sa branche militaire, les YPG, ne sont pas véritablement entamés, qu'il y a une sorte de repli sur des bases plus à l'est pour conserver l'essentiel. Et que pour l'instant, finalement, bien que la Turquie ait dit qu'elle allait aller plus loin, finalement, elle ne l'a pas fait. On sent qu'il y a une forte négociation, finalement, à l'heure actuelle, entre la Turquie et les Occidentaux sur ce point. Je crois que ce recul à Afrin et cette perte de l'enclave d'Afrin par le PYD s'est produite également, quand on le regarde bien, dans un contexte global d'affaiblissement un petit peu de la cause kurde dans les différents États où elle est présente au Moyen-Orient. Puisqu'effectivement, le processus de paix est terminé en Turquie et que le parti kurde HDP, sans être interdit, a été quand même durement réprimé au cours des derniers mois. Qu'en Irak aussi, il y a eu un recul à la suite des déboires de ce référendum l'an dernier mal préparé. Et que finalement, effectivement, en Syrie, il y a ce recul à Afrin qui est important également. Mais je crois que pour autant, les Kurdes, et notamment dans le règlement de la crise syrienne, comme d'ailleurs dans le règlement de la crise irakienne, restent un acteur très important dans la région.
Jean-Marco, Samim Akgönül, je sais que vous voulez intervenir, mais on va se retrouver juste après la pause. Didier Billon, donc on va marquer une pause, le temps d'un nouveau journal sur RFI. On se retrouve dans 10 minutes pour continuer à discuter de la Turquie et des ambitions de son président Recep Tayyip.
Géopolitique.
Chantal Leroux.
Suite de Géopolitique, qui pour contrer Recep Tayyip Erdogan, qui pour voler au secours des Kurdes, plus que jamais dans le collimateur d'Ankara, quelle est la stratégie du régime turc en Syrie? On continue d'en débattre avec trois chercheurs spécialistes de la Turquie, Jean Marcoux, Didier Billon et Samim Akgönül. On va revenir sur l'opération de l'armée turque à Afrin, dans le nord de la Syrie. Samim Akgönül, vous vouliez revenir sur les alliés arabes de l'armée turque pour cette opération, l'armée syrienne libre.
Oui, effectivement. Donc on a l'impression que la Turquie se bat seule en Syrie et va s'installer, alors qu'en réalité, certainement, en fin des négociations, on ne sait pas quand, il y aura un retrait de l'armée turque et la région va rester comme un hinterland de la Turquie, sous le contrôle de la Turquie. Donc il va bien falloir laisser cette région à quelqu'un. Et là, les alliés de la Turquie dans cette région, c'est l'armée syrienne libre, fondée au départ en tant qu'opposition à Bachar el-Assad, mais petit à petit, s'est émiettée et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la SL, en gros, et des militants, est formé des militants d'Al-Nusra, qui est émanation de Al-Qaïda, qui est l'organisation islamiste rivale de l'État islamique. Donc peut-être que l'État islamique sera maté, certainement sera maté puisqu'il s'agissait de monstres créés et donc le monstre va mourir, mais est-ce qu'à la place de ceci, il y aura l'installation d'un autre régime aussi islamiste qui a exactement la même idéologie? D'autant plus qu'une petite parenthèse, si vous me permettez, je ne pense pas que l'État islamique soit disparu complètement dans la mesure où les bases d'entraînement existantes dans le nord ouest de la Libye existe toujours, donc il peut y avoir des embryons en Libye, et si cela arrive, eh bien, les réfugiés ne vont plus passer par la Turquie, mais vont passer par Lampedusa, et cette peur des réfugiés en Europe occidentale peut être ressuscitée. Et donc, une petite parenthèse.
Didier Billon, je vous ai vu opiner de la tête, donc on n'en a pas fini avec Daesh.
Non, je partage totalement le point de vue de Samine, c'était les mêmes causes produisant souvent les mêmes effets. Ceux qui ont prévalu à l'émergence, à la surprise de beaucoup d'observateurs mal informés de Daesh, ne sont pas derrière nous, malheureusement. Et donc, je crains fort que Daesh, l'État islamique, ne se reconstitue sous d'autres formes, mais poursuive sa politique très négative. Donc, Daesh est considérablement affaibli, c'est incontestable, mais elle n'a pas dit son dernier mot, et encore une fois, elle peut ressurgir sous d'autres formes. Ce type d'organisation est quasiment impossible à éradiquer strictement militairement. Et là, on en revient toujours aux questions sociales et politiques qui sont fondamentales.
Jean-Marcoux ?
Oui, je pense effectivement que l'État islamique, en dépit de ses pertes territoriales, est susceptible de renaître dans la région. Samim évoquait le cas de la Libye, mais on peut évoquer aussi le cas de l'Égypte et d'autres pays dans la région. Donc je crois que, en dépit de cette défaite militaire et de ses pertes territoriales en Syrie, le problème va demeurer encore un certain temps.
Didier Billon, quel était l'intérêt de la Russie dans cette intervention turque en Syrie? Est-ce que c'était irriter les Occidentaux, faire payer aux Kurdes leur engagement auprès des Américains, ou obliger les Kurdes à tendre la main à Bachar el-Assad?
Un peu tout cela. La Russie est évidemment le pays qui détient le maximum de fils et possède le maximum d'atouts sur le dossier syrien. Pour autant, ça ne veut pas dire que la Russie peut faire la paix comme elle le désirerait, parce qu'on sent qu'il y a même des divergences avec son protégé Bachar el-Assad. Bachar el-Assad est porté par une sorte du brise de la victoire et il est réticent au conseil appuyé que lui donne Moscou. D'autant que Bachar el-Assad est beaucoup plus directement appuyé et de façon là inconditionnelle par les Iraniens. Donc il y a un jeu très compliqué. Mais ce qui est important, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est que la Russie est revenue en force au Moyen-Orient. La grande force de la Russie, sur le dossier syrien comme sur d'autres pays, c'est qu'elle parle à tout le monde. Elle fait de la politique avec un grand P. Et donc, en ce sens, elle a le maximum d'atouts pour régler la question syrienne. Mais les Russes ont toujours plusieurs fers au feu. C'est une vieille tradition qui existait déjà à l'époque soviétique. Et les Kurdes font partie de cette équation. C'est-à-dire que, par exemple, le Parti de l'Union démocratique a depuis plus de 2 ans maintenant un bureau de représentation à Moscou. Ce qui signifie que les liens avec les dirigeants russes ont toujours existé, en tout cas depuis quelque temps.
Et certains dirigeants kurdes ont été décorés même à Moscou.
Absolument. Donc, comme les Russes comprennent bien que seule une solution politique peut faire sortir la Syrie de la situation de chaos dans laquelle elle se trouve, les Russes comprennent aussi, comme on l'évoquait précédemment, que les Kurdes font partie de l'équation. Mais par ailleurs, c'est aussi un plan de travail de la part de Moscou dans ce bras de fer avec les puissances occidentales et notamment avec les États-Unis. Or, comme vous le disiez, comme les Kurdes de Syrie autour du PYD ont été assez massivement soutenus par les États-Unis, eh bien les Russes ont enfoncé un coin entre les Kurdes et les États-Unis et ont donc laissé faire l'armée turc. Enfin et dernière chose, il est aussi nécessaire pour les Russes de laisser quelques possibilités d'initiative à la Turquie, puisqu'elle fait partie de ce triumvirat avec l'Iran qui prétend être à la manœuvre pour régler la situation syrienne. Donc il y a un jeu très compliqué, très subtil, mais très cohérent de la part de la Russie, qui encore une fois, comme toujours, essaie mieux en diplomatie à plusieurs fers au feu.
Côté turc, en allant en Syrie combattre les combattants kurdes, soutenus militairement par ses alliés américains et européens, Ankara prenait le risque quand même de se mettre ses alliés à dos, ou est-ce qu'elle a misé sur leur lâcheté ou leur impuissance, Jean-Marc Roux?
Je crois que la Turquie, effectivement, a mené une sorte de gradation, d'accroissement dans son audace, en quelque sorte, à intervenir en Syrie. Parce que lorsqu'elle était intervenue en août 2016, déjà dans la première opération militaire à Jarablus, finalement, elle n'avait pas osé affronter directement les Kurdes. Alors que là, on a une gradation supplémentaire qui est d'engager directement le combat avec les Kurdes. Je crois que cela a été possible du fait d'un certain vide de la politique américaine. Les États-Unis, en effet, disaient depuis plusieurs semaines qu'ils voulaient se retirer de Syrie. On ne voyait pas très bien quel était leur jeu. En plus, comme vous le savez, les États-Unis parlent désormais à plusieurs voix. Il y a le Pentagone, la Maison Blanche, le secrétariat d'État, le Congrès. Vous savez, les relations internationales ont horreur du vide. Hein, et du fait de ce vide américain, la Turquie s'est engouffrée dans la brèche et a eu l'audace effectivement d'intervenir et elle en a récolté, si j'ose dire, les fruits en complétant, en renforçant cette bande territoriale, cet interland qu'elle voulait créer depuis des années sur la rive occidentale de l'Euphrate. Je crois que c'est la leçon en réalité de cette histoire pour les relations internationales. Et dans ce cadre-là, la Russie est en position de force, c'est indiscutable.
Samim Aghenoul, comment vous expliquez-vous l'attitude des États-Unis? Parce que, contrairement aux Européens, ils ne sont pas otages, eux, de la question migratoire. Comment vous expliquez ce peu d'influence de Donald Trump sur Recep Tayyip Erdogan?
Eh bien, Donald Trump était à la recherche d'une légitimité à l'intérieur même des États-Unis. Il est quand même assez ridiculisé. Et donc, le va-t-en-guérisme sert toujours à cette recherche de légitimité. Il y a eu ces frappes en Syrie. On ne sait pas très bien, d'ailleurs, hein, comment cela a été décidé. Pourquoi la Grande-Bretagne, à la limite? Mais pourquoi la France y a participé? Bon, incompréhensible, je ne sais pas. Mais en tout cas, les États-Unis sont revenus dans le jeu et ont montré aux Russes et aux Iraniens qu'ils n'étaient pas seuls sur l'échiquier. Dans tout cela, quand même, il y a quelque chose qu'on devrait évoquer, parce que comme vous l'avez souligné, les Occidentaux, notamment européens, sont à l'otage de cette crise migratoire. Effectivement, dans tout cet ensemble de chaos, il existe approximativement 3 500 000 individus en Syrie appelés comme des réfugiés syriens, qui n'en sont pas, ils ne peuvent pas être des réfugiés, sans compter ceux qui sont en Jordanie ou au Liban, qui sont objets d'un accord inique entre l'Union européenne et la Turquie, et donc qui sont en quelque sorte des otages. Alors maintenant, est-ce que cette intervention en Syrie de l'armée turque, préparant la région du nord de la Syrie avec le retour, entre guillemets, de ces réfugiés, je ne crois pas un seul instant, je ne pense plus que ces 3,5 millions de personnes vont repartir, en tout cas massivement, vers la Syrie. À mon avis, cette question des déplacés de forces syriens en Turquie et en Europe occidentale, parce qu'ils vont revenir tôt ou tard, sera une question de la décennie, voire de deux décennies à venir, dans la mesure où il y aura des générations qui vont naître à l'exil.
Didier Billon, vous vouliez réagir à ce que vient de dire Samim Aghenoul?
Oui, oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Ce serait totalement illusoire de considérer que tout ou partie des réfugiés, alors on peut discuter de la validité de ce terme, enfin des 3 500 000 ressortissants syriens qui se trouvent actuellement en Turquie, puissent repartir dans le nord-ouest de la Syrie, dans le canton d'Afrin. Pourtant, les autorités turques l'ont dit à plusieurs reprises, la presse internationale l'a évoqué, mais je pense que c'est une vue de l'esprit. Déjà, pour des raisons très pratiques, 3 500 000 personnes, c'est énorme. Ces hommes et femmes ne sont pas originaires, pour la grande majorité d'entre eux, du nord-ouest de la Syrie. Donc on ne peut pas s'amuser avec des populations à les déplacer indépendamment de leur volonté. Par ailleurs, je crois qu'une partie de ce qu'on appelle les réfugiés syriens resteront en Turquie pour de très très longues années. Et puis une autre partie, comme le soulignait Samine, vont aller vers l'Europe occidentale. Ce débat, ce qui alimente le populisme dans quasiment tous les pays membres de l'Union européenne, est un débat qu'il va falloir prendre à bras-le-corps parce que, effectivement, c'est sûrement l'affaire d'une ou deux décennies pour le régler véritablement, de façon humaine, juste. Là encore, c'est plus facile à dire qu'à faire.
Jean-Marco, on va maintenant parler de la situation intérieure en Turquie. Est-ce que vous avez été surpris par l'annonce cette semaine par Recep Tayyip Erdogan d'anticiper les élections présidentielles et législatives qui étaient prévues le 3 novembre 2019? Le scrutin aura lieu le 24 juin prochain.
Une demi-surprise, parce que je me souviens des commentaires et des analyses que l'on avait fait juste après le référendum il y a un an, le référendum donc qui a changé la constitution pour faire de la Turquie un régime présidentiel autoritaire. Et une bonne partie des réformes ne doivent s'appliquer qu'en 2019, ou étaient retardées en quelque sorte. La réforme ne s'appliquait pas immédiatement. Et beaucoup de gens disaient qu'il était peu probable que Recep Tayyip Erdogan allait attendre finalement 2 ans pour véritablement prendre finalement ses prérogatives en main. C'est vrai que par la suite, on s'est laissé un petit peu endormir. Recep Tayyip Erdogan et l'AKP ont dit qu'il n'était pas question d'élections anticipées. Mais quand on regarde bien, il y a une sorte d'agenda qui a été suivi. Depuis le référendum, une partie des réformes ont commencé à être appliquées, notamment sur le plan concret. Beaucoup de services ont été recentrés autour de la présidence. Je pense aux services de renseignement, je pense à l'industrie de l'armement, je pense également au Diyanet, la direction des affaires religieuses. Par ailleurs, quand on regarde bien au cours des dernières semaines, il y a eu finalement une réforme du processus électoral avec la possibilité pour les partis d'aller à la bataille électorale en montant des coalitions électorales. C'est ce qu'ont fait l'AKP et le Parti Nationaliste, dont le leader a demandé des élections anticipées. Donc on sent en fait qu'il y a une feuille de route, notamment de l'AKP et des nationalistes, qui a fonctionné au cours des dernières semaines. Ce que je crains côté opposition, c'est que la préparation de ces élections n'a pas été pour l'instant très concluante. Et s'il y a des gens qui sont un petit peu surpris à l'heure actuelle, je pense que ce sont effectivement les partis d'opposition. Et ça risque de peser lourd dans la balance, parce que finalement, d'ici le scrutin, il ne reste plus que 65 jours et qu'il va être difficile de se préparer pour une bataille de cette importance en quelques semaines.
Samim Akgönül, vous êtes d'accord? L'opposition va avoir très très peu de temps pour se préparer.
Mais quelle opposition? On parle de quelle?
Il n'y a plus d'opposition en Turquie.
Je suis surpris de la surprise, il faut le dire, puisque à plusieurs reprises, le président Recep Tayyip Erdogan avait déclaré que les élections anticipées, évoquaient même les élections anticipées, étaient une traîtrise à la patrie. C'était le meilleur signe qu'il y allait y avoir des élections anticipées. Hein. Donc effectivement, nous avons dans 65 jours maintenant des élections anticipées. Et qui va participer à ces élections? D'abord, ce sont des élections à la fois présidentielle et législative. L'AKP, le parti islamo-nationaliste, est en alliance proche avec le parti nationaliste islamique, si vous voulez, donc des deux côtés, devenant aujourd'hui blanc bonnet blanc. Hein. Le MHP est en train de fusionner pas à pas avec l'AKP et avec un candidat qui est Recep Tayyip Erdogan. En face, il allait y avoir une sorte de coalition des nationalistes plus sécularistes derrière Meral Akşener. Bolsonaro, il est parti, le bon parti, eh bien aujourd'hui, avec ces élections anticipées, peut-être que le parti ne pourra même pas participer à ces élections. Et même s'il participe, il n'aura pas le temps de s'installer. Le HTP, Jean vient de le dire, a été entièrement détruit, démonté. Je ne sais plus combien de membres, des centaines de membres sont en prison et criminalisés, marginalisés. Et reste le CHP avec son vote structurel autour de 20%. La presse a été rachetée entièrement, le grand groupe a été racheté par un groupe tout à fait proche du pouvoir. Donc la presse sera l'écho du parti au pouvoir. À mon avis, l'opposition au sens noble du terme ne pourra pas exister ou s'exprimer dans les 2 mois à venir.
Didier Billon, on parlait du référendum, mais en même temps, le référendum, Erdogan l'avait emporté par 51% des voix alors qu'il en espérait 60. Alors est-ce que cette chape de plomb imposée par le président turc sur le pays ne pourrait pas se retourner contre lui lors des prochains scrutins? Ou est-ce que vous n'y croyez pas du tout?
Autant j'adhère véritablement totalement à ce que viennent d'expliquer Jean et Samine sur la réalité de l'échiquier politique turc. Et là, on peut dire qu'il y a une guerre de mouvement politique, c'est-à-dire que le président Erdogan est tout le temps en action, il prend tout le temps des initiatives et quelque part, il submerge ses oppositions, entre guillemets, qui est incapable de résister à ce rouleau compresseur. Mais l'année dernière, il y a eu ce référendum constitutionnel. Il a été gagné par les partisans du oui, un peu plus de 51,4% des suffrages exprimés. Nous savons que pendant les semaines qui ont précédé, il y a eu utilisation, surutilisation de l'ensemble ou la quasi-totalité des médias par les partisans du oui. Il y a eu un matraquage, il y a une étude du Parti Républicain du Peuple qui montre qu'il y avait un rapport de 80 à 20% des temps d'antenne utilisés pour ce référendum, bien sûr au détriment des partisans du non. Et malgré cela, le score n'a pas été si éblouissant que cela, d'autant que, facteur aggravant, il y a des cas de fraude électorale quasi avérés, même si les contrôles n'ont pas été à leur terme. Donc, cela me fait penser que, en dépit de la désorientation des directions politiques, en dépit de leur impréparation, il y a un aspect d'amateurisme dans cette opposition politique. Je sais bien qu'il est difficile de résister à M. Erdogan, mais franchement, les oppositions ne sont pas à la hauteur de leurs responsabilités, outre ceux qui sont durement touchés par la répression, comme les dirigeants du Parti démocratique des peuples. Ce que je pense, c'est que le peuple turc se saisit, ou une partie de celui-ci, se saisit de toutes les possibilités pour montrer une forme de résistance. Alors ça peut être lors d'élections. Ce qui veut dire que pour les élections présidentielles du 24 juin prochain, le véritable enjeu, c'est de savoir si Erdogan va passer dès le premier tour, ce qui a eu lieu lors des précédentes présidentielles. Parce que s'il ne passe pas au premier tour, je pense que des possibilités d'une défaite ne sont pas écartés. Bien sûr, il part avec une longueur d'avance. Bien sûr, il va avoir à sa disposition un appareil politique, un appareil médiatique. Mais en même temps, une partie des Turcs n'en peuvent plus et peuvent résister de cette façon. D'autant que la situation économique, qui a été une des raisons pour lesquelles l'AKP s'est construit une base sociale électorale, n'est plus aussi brillante qu'il y a quelques années. Cela peut jouer aussi. Donc, je sais bien que si Erdogan a décidé de ces élections anticipées, ce qui ne constitue pas une surprise...
C'est qu'il se sent un peu sûr de lui.
Il se sent sûr de lui, puis il essaie de surfer une fois de plus sur cette mystique nationaliste qui a été renforcée au cours des dernières semaines, à propos d'Afrin tout particulièrement.
On aura l'occasion de revenir sur ces élections du mois de juin. Merci à tous les trois d'avoir été nos invités. Jean Marcoux, directeur des relations internationales et de la chaire Méditerranée Moyen-Orient à Sciences Po Grenoble. Merci à France Bleu Isère d'avoir permis ce duplex avec vous. Et je renvoie nos auditeurs à la revue Moyen-Orient numéro 36 intitulée « Turquie, le tournant autoritaire », revue trimestrielle que vous avez codirigée. Samy McGonul, chercheur au CNRS, enseignant à l'Université de Strasbourg, d'où vous étiez en duplex grâce à nos confrères de France Bleu Alsace. Vous publiez aux presses universitaires de Strasbourg « La Turquie nouvelle, du rêve d'Europe au cauchemar du Proche-Orient ». Et Didier Billon, chercheur à l'IRIS, et vous sortez cette semaine Géopolitique des mondes arabes chez Erol. Merci également à Nathalie Laporte qui a réalisé cette émission et à Yann Leny qui m'a aidé à la préparer. Demain, Géopolitique se penchera sur l'après Zuma en Afrique du Sud avec cette question: quelle marge de manœuvre pour le nouveau président Cyril Ramaphosa?